Radio Grand Ciel présente Un Jardin Perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis toujours très heureuse de recevoir Michel Jourdain. Il va évoquer aujourd'hui de belles journées au jardin. Michel Jourdain, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, le jardinier doit être absolument satisfait de retrouver cette période parce que les jours sont plus longs, ils peuvent même être souvent ensoleillés. Alors, vous aussi, vous sortez, j'imagine, votre chaise longue pour profiter de tous les efforts que vous avez pu faire au printemps.
Oui, merci de ce conseil, Christiane, mais je vais d'abord m'activer dans tout ce que je dois faire dans ce jardin. J'en profiterai dès que j'aurai un petit peu de temps pour ça.
Oui, parce qu'il faut prendre du temps pour admirer aussi.
Oui, bien sûr, il faut faire son petit tour de jardin pour voir par rapport à la veille, qu'est-ce qui a évolué.
Alors justement, quelles sont les premières satisfactions que vous pouvez avoir quand vous vous promenez dans votre jardin ?
Eh bien, je m'arrête au carré des radis et c'est la première satisfaction, elle est gustative parce que les premiers radis de primeur, si je puis dire, ont un goût formidable, sont très, très goûteux.
Ah oui.
Et ils sont croquants. C'est un plaisir de manger ces premiers radis.
Vous avez déjà mangé vos premiers radis ?
Oui, et avec les fans qui sont douces aussi, on a fait de la soupe. Oui, on fait un potage avec les fans de radis. On peut les récupérer. Ah oui, c'est très bon. Vous mettez un peu de pommes de terre et puis ça vous fait un potage qui passe très très bien.
Ah, parfait. Donc on peut tout faire avec les radis.
Voilà.
Et les salades ?
Alors les salades aussi, il y en a quelques-unes. Ceux qui ont fait des salades d'hiver,
oui,
ils profitent à la repousse parce qu'elles arrivent à supporter des températures négatives l'hiver, même surtout celles que vous avez mises sous châssis. Et puis c'est en plein essor à ce moment-là, à partir de mars.
Alors, quelle sorte de salade ?
Ben, moi, j'ai pas pu en garder beaucoup, mais il y en a une que je regarde tous les jours et d'ici quelques jours, je vais pouvoir la déguster.
C'est quoi ?
C'est une salade brune d'hiver.
Une salade brune.
Merveille d'hiver, brune.
Merveille d'hiver.
Oui.
Et les tomates ? Que faut-il faire ?
Les tomates, alors c'est la question que se posent tous les jardiniers et quasiment chaque année. Alors, prix des plants qui sont proposés dans les commerces, ça incite à la prudence.
Parce que c'est cher,
oui. Oui, c'est aux environs de 1 euro le plant, ça fait quand même beaucoup. D'autant plus que si on les met en période encore gélive, ces plants vont être perdus.
Ah oui.
Donc, faut soit les acheter tôt, mais prévoir la couverture qu'il faut dans les serres, ou dans des tunnels de forçage pour éviter les températures négatives. Personnellement, moi, j'attends de les mettre en pleine terre seulement à partir du 15 mai. Par contre, les plants, on peut les réaliser soi-même. Donc là, on fait une grosse économie quand même.
On les fait
dans des terrines ou des pots qu'on met dans des tunnels à forcer ou dans des serres, plus exactement dans une serre. Là, on maintient la température qu'on veut. Qui a été dit idéal, il faut au minimum 18 degrés à peu près pour avoir une germination correcte et puis une montée en plant. Mais il ne faut pas trop se presser parce que dans une serre ou ailleurs, ou en sous-abri, les plants vont monter très vite, mais ils ne vont pas être solides sur leurs pieds, si je puis dire. Et donc, en plus, dès qu'on les sort, ils vont avoir un choc thermique aussi. Donc, il faut les faire suffisamment pour qu'ils soient prêts juste au moment où ils peuvent supporter la température extérieure.
Alors, pour vous, c'est quoi la date ?
Oh, bah, moi, je commence à les faire à la mi-avril, ces plants, hein, pas
ah,
avant.
Oui.
Hein.
Donc, on a...
Et bon, c'est vrai qu'il y a un retard dans la production. J'ai mes tomates seulement en juillet, les premières. Mais bon, tant pis, hein, c'est le point de vue que j'ai pris.
Et j'en viens aux tomates. Est-ce que la pluie joue un grand rôle ?
Alors oui, la pluie apporte là une maladie qu'on appelle le mildiou, notamment, d'autres aussi, mais principalement c'est le mildiou. Et cette maladie apparaît après une pluie qui dure, 12 heures d'affilée. S'il y a une pluie qui dure qu'une heure, ça sèche après, le mildiou n'a pas le temps de s'installer. Il lui faut 12 heures de pluie continuelle pour s'installer et que la température dépasse aussi les 20 degrés.
Alors, est-ce qu'il faut les traiter préventivement ?
Alors voilà, oui, c'est ce qu'on fait. On va consulter la météo et les traiter, mais en les traitant, c'est aussi une pulvérisation qu'on va faire. Donc, on va amener de l'eau également. Donc, il faut prévoir qu'après notre pulvérisation, il y a au moins une journée ou deux sèche, de façon que l'eau sèche. Et avant, si on a eu une période de 12 heures de pluie, si nous on ajoute encore de la pluie derrière,
ça va pas, c'est perdu.
Donc il faut partir d'une période sèche, traiter, et ensuite une période de sèche au moins 24 heures ou 2 jours, c'est encore mieux. Et puis, si on les a mis sous des abris, notamment des tunnels. Les tunnels en plastique condensent la vapeur d'eau en gouttes de pluie, donc c'est un peu perdu. Alors il faut que ce tunnel soit très aéré. En fait, on aère des deux bouts, ou alors avec des tunnels dont on peut remonter les côtés. Il faut éviter la pluie et la concentration d'humidité.
Alors, malgré tout cela, est-ce que la maladie peut arriver ?
Elle peut arriver. Et alors là, on va prévoir des soins appropriés. Alors bon, déjà, on va pulvériser. Mais moi, je le fais en prévention. On pulvérise de la bouillie bordelaise. Alors, elle a mauvaise presse parce qu'elle laisse quand même un résidu dans le sol à base de cuivre. Et si on en utilise trop souvent depuis des années au même endroit, la terre est pas très 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 bonne. On peut pas s'empoisonner. Mais si on l'utilise qu'une fois au moment de la plantation de notre plant de tomate, une petite pulvérisation assez légère, on va diminuer la dose indiquée et ça va faire du bien. Par contre, comme ça sera insuffisant, on va refaire une pulvérisation à base de tanaisie ou de purin de tanaisie ou bien de purin de bardane, par exemple, dilué à 10%, comme on a parlé tout à l'heure pour l'ortie. Mais on ne va pas pulvériser de l'ortie, parce que l'ortie contient énormément d'azote, et l'azote qui est contenu dans ce purin va favoriser le développement des tiges et des feuilles de la tomate au détriment des fruits.
Ah! Alors, on dit aussi que l'ortie, c'est très bien pour les tomates.
Alors, justement, c'est pour ça que je ne l'utilise pas pour les tomates. Certains disaient qu'il fallait mettre des feuilles d'ortie au fond du trou de plantation, mais si on en met très peu, c'est pas grave. Mais si on en met trop, c'est l'azote va favoriser ce que je viens de dire là, c'est que ça va pousser les tiges.
Ah oui, c'est ça.
Par contre aussi, il y a une chose à faire, la maladie est déclarée. Bon, vous voyez des feuilles qui noircissent.
Alors là,
Alors à ce moment-là, c'est en visitant chaque jour votre plantation où vous allez voir les
feuilles. Il faut aller au jardin tous les jours.
D'un jour sur l'autre, la veille, la tomate sera intacte. Le lendemain, il y aura des petites parties de feuilles qui vont être atteintes. À ce moment-là, vous coupez ces parties atteintes, vous les enlevez, vous les brûlez. Et au fur et à mesure, chaque jour, vous refaites un parcours comme ça, ce qui permet la maladie ne va pas se propager
trop vite
et surtout à d'autres plants. Donc souvent c'est un peu ça. Mais il arrive à un moment, immanquablement, une fois que le milieu est là, si le temps continue d'être favorisé des pluies avec de la chaleur, la maladie va se développer immanquablement. Donc le but, ça sera de ralentir cette maladie avec des traitements, comme je disais, des traitements naturels, et puis aussi couper les feuilles, et au bout d'un moment, ça sera plus possible, parce qu'il n'y aura presque plus de feuilles à couper, et même la tige sera atteinte, et les fruits commenceront à être atteints aussi. À ce moment-là, on récupère les fruits, on peut couper les fruits rouges, ceux qui sont rouges, qui sont un petit peu atteints, on enlève la partie atteinte, le reste est consommable, et pour les fruits verts, on peut en faire de très bonnes confitures. Donc on enlève les parties malades sur le fruit vert. Alors ça va vous faire d'un seul coup une grande quantité de tomates vertes à transformer en confiture. Mais provisoirement, vous pouvez les congeler et puis faire quand vous avez le temps votre confiture.
Et votre
alors
épouse...
la confiture de tomates vertes, certaines personnes n'apprécient pas beaucoup le goût. Alors il vaut mieux faire des confitures mélangées avec de l'orange, par exemple, orange, tomates vertes. Ou d'autres fruits qui vont redonner un peu de
douceur. Et c'est vous qui faites la confiture ou c'est votre épouse ?
En général, quand c'est les tomates vertes, c'est moi.
Ah oui, alors comment vous y prenez?
Eh bien, je coupe en petits morceaux les tomates.
Oui.
Qui ont été congelées, c'est encore mieux parce qu'elles sont plus friables. Oui. Elles vont cuire plus facilement. On peut même, au moment du dégel, éliminer une partie de l'eau parce que la tomate contient beaucoup d'eau. Et pour les confitures, il ne faut pas trop. Et puis alors, je rajoute des oranges coupées en petits morceaux. Avec la peau, si l'orange n'a pas été trop traitée quand même. Mmh. Et puis, aussi les potirons.
Ah
donc,
oui.
Vos tomates vertes attendront peut-être le moment où le potiron sera mûr dans le congélateur. Et elles attendront que le potiron sera mûr et vous pourrez faire d'excellentes confitures comme ça.
Alors, vous savez tout faire, le jardin, les confitures. Et maintenant, j'en arrive au mois de juin.
Mais en juin.
Que l'on va pouvoir bouturer les hydrangeas.
Oui, mais avant, j'aurais bien aimé parler des haricots, parce que c'est aussi un légume qui est très présent dans les jardins. Les haricots, alors, il y a un vieux dicton qui précise que c'est à la Saint-Didier, c'est-à-dire le 23 mai, qu'on sème les haricots, qu'ils soient bons à récolter en filet ou en grains. Et puis, on prendra de toute façon la précaution de vérifier que la température du sol est à plus de 15 degrés, au moins 15 degrés. Et il ne faut pas ressemer dans une parcelle qui a contenu les haricots les deux années précédentes. Faut tout, ça on appelle la rotation des cultures. On peut semer en ligne, en gros une graine tous les 3 ou 4 cm, ou en poquet, distant de 20 à 30 cm chacun, dans une petite cuvette de 2 à 4 cm de profondeur. Et là, on va y mettre 7 grains.
Ah.
C'est ce que je fais, 7 grains. Mais si c'est 6, c'est pas grave.
Mais non, mais le nombre 7 est particulièrement intéressant.
Et on recouvre un petit peu de terre, on tasse légèrement. Et puis, si le sol est sec à ce moment-là, on va donner un petit peu d'eau, mais modérément, parce que le haricot risque de pourrir en terre. Et là, les levées vont s'effectuer assez rapidement si la température du sol et de l'atmosphère est douce.
Alors, le mois précédent, si on se souvient bien, vous aviez planté des pommes de terre. Et quelquefois, ces pommes de terre sont souvent mangées par des vers. Alors, qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, c'est l'ennemi, ça s'appelle le taupin. C'est un petit ver long, parfois baptisé fil de fer, qui investit les tubercules et fait des trous dedans. Donc, on trouve en jardinerie des produits pesticides, mais bon, on peut piéger aussi l'alternative, les piéger ces vers en enfonçant dans le sol de 1 à 2 cm une demi-pomme de terre coupée et piquée d'un bâtonnet. Et on relève tous les jours ce bâtonnet ou cette pomme de terre. On la retrouve parce qu'il y a un bâtonnet qui pique la pomme de terre. On la retourne et là, on va trouver des vers agglutinés qu'il faudra éliminer.
Alors cette fois, j'en arrive au bouturage. Est-ce que c'est le moment?
On peut bouturer avec un certain succès les hydrangeas. Je ne parlerai pas des autres boutures, mais l'hydrangea, on va prendre un fragment de 30 cm de long sur un hydrangea et on va supprimer toutes les feuilles sauf la dernière paire de feuilles à l'extrémité. On recoupe en biseau de la tige à environ 12 cm du sommet sous un nœud. Et puis les feuilles restantes, donc la paire de feuilles, on va les réduire un petit peu, de moitié. Et on va planter ça dans un pot de terre prélevé au pied de l'hydrangea ou d'un mélange qu'on aura fabriqué soi-même avec de la terre de bruyère, de la terre de jardin et un petit peu de sable. La bouture est mise dans un pot à l'ombre et arrosée tous les jours sans excès. Mais pendant une semaine, ensuite, on va arroser 15 jours sur 3.
Eh bien, un grand merci, Michel Jourdain. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. À bientôt, Michel Jourdain.
À bientôt, Christiane Blain.